La première poésie de Werner Lambercy relevait de l'art très fin de l'abréviation. C'était de petits poèmes sans titre, composés de 6 à 9 vers, chaque vers comportant tout au plus 4 à 5 vocables choisis. Des phrases nominales souvent, des mots ciselés entre silence et cri. Plus tard, dans 33 scarifications de l'air, il aboutit à une alternance de poèmes brefs et de poèmes en prose au rythme contradictoire, heurté. C'était les navettes affolées du souffle et du poème où jouait l'expérience du voyage aux Indes et à New York. Fin 1979, Lambercy publie sa pièce maîtresse, Maîtres et maisons de thé, livre programmé par la cérémonie japonaise du thé et par la passion amoureuse. Livre où le rite et l'alternance des souffles s'avèrent exacts, noces du lieu et de la formule. Werner Lambercy lit quelques extraits de ce livre, qu'il commente ensuite.
Dans chaque être, ils sont 5. Invités selon forme, contour, creux. 5 qui se le partagent différemment. Dans un corps cousu comme un sac retréci à l'usage. Et la parole est toute du peu de bruit qu'ils font ou non devant les choses qu'ils ignorent. De cette chambre où le maître reçoit silencieux. Poupées emboîtées, l'hôte, l'invité qui repart et d'autres, sous tant d'enveloppes depuis l'espace et l'emballage clos du sexe, ton cellier de vin doux, d'huile et d'aiguille, qu'il faut pour les voir déchirer en ouvrant et arracher encore malgré douceurs et rites, puis disposer celle qui convient au jour. En les changeant de place selon l'ordre, l'urgence. La première est la peau, l'aveugle sous la pointe et sur l'os, l'externe excitée, la chercheuse à tâtons, elle est la pierreuse, émue avant, troublée après. Poupée extrême de Finistère, de doigts, de nerfs, de landes et de ventre, ramenée à la vie agitée du jouet par le frisson de quel ressort trop court. Il ne sera rien dit ici, des vols dispersés, puis regroupés des mains, des lieux propices, des plis, ni des creux, rien non plus de l'air, contre quoi s'écorche la chute, par un vertige des sens et une totale dispersion de soi. Revenir à la tête, masque sans visage, derrière. Avec seulement des trous pour voir le vide et des lèvres immobiles, ouvertes sans mensonge sur la mort. Chiffon androgyne dans l'étrange matière de l'inachevé et du mouvant, dans l'harmonie humaine de l'imparfait, poupée de pâte sous le pouce, comme modèle romane aux yeux d'amande ou ronde percée d'étonnement clair entre les tresses. Revenir au front, quand le maître respectueux se penche, laissant longuement la tête dans l'ombre des cheveux et méditant, puis se redresse et offre sans honte ni recul la face à ce ravage de racines qui remue lentement et soulève la terre. Alors sont livrés le livre, l'arcane et le plan, les rides qui relient aux étoiles, sous le soleil rieur des arcades plissées en coin. Voici la figure, l'évidence et l'aveu quand passera sur les paupières la main qui ferme avec douceur. Et c'est au-delà de son corps, un corps plus partagé et plus loin en elle, la chambre où nous nous rencontrerons, où nous nous regarderons avec recueillement et abandon, dans les délices fortes des destins scellés. Et nous partagerons là la douce chaleur envahissante du thé, sa lente excitation, avec dans le cœur et les yeux le roulement rageur des planètes, et sous la nuque et sous les reins, le feu des soleils éclatés dans le double mouvement qui écarte et resserre comme on respire. Cercle de chaleur allant s'élargissant depuis le centre, depuis le ventre, depuis la colonne de l'air que tient debout le nerf des vertèbres. Présence enveloppante depuis l'éblouissement, la réciproque découverte. Ce sera là le rendez-vous. Là, le thé lentement préparé sera ce qui dure pour que deux êtres se contemplant coulent, glissent, infusent, se mêlent et s'unissent depuis l'origine, la création, jusqu'à la fin qui recommencera. Et nous boirons le temps perdu dans le bol si parfaitement beau de l'espace, sous le prétexte d'une cérémonie avant le texte de l'aveu contenu dans la convocation. Et c'est son corps et le mien qui se fondent dans un cri, qui perle, parle, se réclame de la spirale vertigineuse de la vie. Et c'est son corps qui me rassemble, qui m'entraîne, me fixe par ce vide rugissant d'inaugurer à nouveau l'univers. Je crois que tout le livre est un livre de libération. Un livre de déblocage. D'au-delà du cul-de-sac, le livre du basculement, vers la liberté soudain trouvée. Et je m'explique, ayant soudain la conscience nette de quelque chose, il suffit d'un exemple précis. Et je dirais même n'importe lequel. On se saisit d'une chose, et cette chose-là, c'est toutes les choses. Il s'est trouvé que, par hasard d'ailleurs, une lecture du livre du thé de Kakuzo est déclenchée. Le système qui a fait que j'ai eu envie d'écrire, et je peux développer ça, historiquement, c'est facile. Mais en fait, ça aurait pu se déclencher sur n'importe quoi d'autre, à partir du moment où on sent que sur un point précis, complètement envahi, on peut expliquer tout ce qu'il y a expliqué. Et je crois que j'aurais très bien pu partir sur le jeu de la marelle avec un petit caillou, ou sur le rite amoureux des pingouins qui déposent une herbe ou une pierre au pied de la femelle, ou n'importe quelle espèce de geste porteur à la fois d'un besoin essentiel, d'une parole signifiante et d'une attente extrêmement forte qu'on peut appeler comme on veut l'amour, l'amitié, Dieu, l'absence de Dieu, la jubilation intérieure, la poésie, n'importe quelle forme d'absolu envahissant la plus petite parcelle d'existence quelque part. Il fallait, comme il est marqué au début de Maître et Maison de Thé, qu'il y ait la vie, la liberté, la jubilation, la joie, l'amour. Et ça suffisait. Maintenant que ça se soit porté, fixé sur une cérémonie de thé, c'est parce qu'elle s'y prêtait remarquablement bien au niveau de l'architecture des maisons de thé qui ressemblait à l'architecture idéale d'un livre, dans la mesure où c'est un processus d'avancement, encore une fois un voyage, où on ouvre porte après porte un certain nombre de... presque, on parcourt un suspense. Bon, ici, dans ce cas-ci, je ne sais pas si je vais reprendre ce que j'ai déjà expliqué ailleurs, mais un portique, une allée, une antichambre et une chambre sont une progression évidente vers quelque chose. Non pas un progrès, mais une progression, c'est-à-dire une pénétration vers quelque chose. Du portique qui est une transgression par l'allée, qui est une pénétration vers une antichambre, qui est une rêverie vers la chambre où se passent les choses, il y a évidemment un récit qui permet, disons, le lent glissement progressif vers le plaisir. La cérémonie elle-même étant un rite, et le rythme étant dans ce cas, je crois, absolument indispensable, il ne m'a jamais quitté, on l'a vu dans les autres livres, mais le rite n'est pas seulement ici, c'est ce dédouanement de ce qui n'est pas le réel évident, au profit d'un réel nécessaire et ailleurs. Ici, le rite est encore plus que cette sorte d'apprivoisement de la réalité. Il est cette espèce de piège qu'on tend à l'absolu. Cette espèce d'appétit, de faim, de nécessité qu'on a d'un absolu, qui peut très bien s'appeler l'homme, qui peut très bien s'appeler Dieu, qui peut très bien s'appeler n'importe quoi. C'est la structure vide idéale.
Peu de poètes comme Jacques Criquillon parlent avec autant d'emportement dans la voix. La phrase la travaille jusqu'au point où elle risquerait de basculer. La haute diction mythique de ce poète est sans cesse contrebalancée par une ironie rhétorique, comme s'il dénonçait un monde en carton-pâte langagier qui l'entoure, le menace. Une œuvre déjà riche et ample, profondément cohérente dans ses manifestations diverses, et reconnue comme telle. Jacques Criquillon lit des textes extraits de « Colonie de la mémoire » et tente ensuite de se situer.
Je voudrais écrire à Oukala, lui dire ce qui manque, et comme il fait froid, parler de ce qui entoure, qui sert, de ce qui vient si vite, si lourd. Je voudrais écrire sur ce qui reste, qui n'a pas changé, qui s'effondre. Je voudrais qu'elle apprenne où nous sommes, et je voudrais qu'elle bouge un peu quelque part, pour que j'éprouve sur les yeux sa venue. Qu'elle cesse un instant de nous oublier, qu'elle prenne ma vie toute grenue pour la jeter dans la mer. Je voudrais prier Oukala, lui dire quel nom étrange est le sien, comme il résonne loin et longtemps, et comme le passage est lent et difficile. Et qu'elle se lève, et qu'elle approche, et qu'elle réponde. Je veux qu'on l'écrive ici même, sur le blanc, nouvelle et tout entière, s'il est encore temps. Le repos dans les prairies du rêve, parenthèse du cauchemar, ne surpasse guère sa découverte, ses chairs miroitantes, ténébreuses, des vitrines de mode, la nuit, qu'il pleut et qu'ils sont tous aux terrasses des Hilton du Sud. Le coq de concours annonce le jeu des épées. La famille te cache dans les caves de la Troisième Guerre mondiale. On se fout de tout quand on attend vraiment de ne plus être. Et le petit frère parti dans des Bermudes, des Bahamas, des Singalaises avec ce qui te restait de conquête. Comment se lever, se montrer, parler aux jeunesses. Et le texte peine dans les faux plats du côté des villages jamais visités. Ferme déserte qu'on aperçoit de loin, entre les dahlias fanés des chapelles dont la grille baie, tabernacle gravé de l'araignée grise à pointe noire, des chiens hirsutes grondent, nul ne les retient, on avance à reculons vers les plus proches déserts, un carrelage bleu au passage, profond comme la mer chaude, comme si quelque femme sommeillait là dans l'angle mort, dans un panier de dentelle, les mains sans tache sur des accoudoirs de vieux chêne, et le front d'un ovale fascinant ceint de cette mélancolie sournoise des réclusions volontaires. Ensuite, le sentier précipite vers le ruisseau des taillis plein de détritus et de roches à vipères. Un homme brun de là-haut, avec une fourche, vous appelle ou vous chasse. On voudrait vivement un café avec des rideaux clos, un billard de la musique déshabituée et une serveuse laide et délurée pour se moquer de la frayeur et de l'appétit. Cependant qu'on colporte à mauvais gré le souvenir de celle qui fut, mais c'est si loin, si loin, l'espérance, le repos dans les prairies. Elvire, Ava, Mansour, bête farouche dont les toisons frissonnantes en fièvre, Madigan, réminiscence d'une fête sévère parmi les buis, Oukala, perfection de sa vie, valse brève au centre du labyrinthe, son regard de l'éclat métallique du verre, les poisons de l'orchestre hautain sur son kiosque, et le départ général soudain au milieu de la mélodie. Dans les prairies proches de l'aurore, quand ronflent les premiers autobus, épuisent les ultimes ferveurs, les idées enivrantes, zébrures d'orage, de l'insomnie, s'élever d'oiseaux sur les lacs, ces galops de chevaux derrière les murs des parcs, et les syllabes qu'on pleure au réveil, comme si le grand, le suprême amour avait passé. Le repos dans les prairies, l'instant prolongé de notre rencontre, se déroule sous les tirs de mitrailleuses, à la lueur des thunderflax. Le corps, trop terriblement désiré, adopte les déchirants dégradés de la mort et de la volupté. Les toutes jeunes en cuir gaufré à la porte des casernes, les mini-jupes délacées autour des échafauds, et le drap communautaire des chambres de conservation où s'opèrent du coin de l'œil, sur la fuite, les reconnaissances les plus inattendues. Alors que les forces déclinent, que les tranchées du jour ouvrent aux vagues mestres leur auditoire de fous et de paralysés. Ah, Béryl, Béryl. Ah, frêle âme du matin mouillé. Dessin de la vitre embuée dans le wagon qui me porte aux 8 heures d'absence. Je t'offre encore les paupières sommeilleuses d'une lectrice d'amour doux. Je t'offre cette passionnante indifférence.
Je ne me situe nulle part. D'abord, il m'était impossible de me situer. Ce serait vraiment très difficile et je me donnerais des étiquettes qui n'auraient pas de sens, du moins pour moi, ce seraient des étiquettes restrictives. Je me suis d'ailleurs jamais posé en fait la question de la tendance à laquelle je voulais appartenir ou à laquelle j'appartenais de fait. Il m'a toujours semblé, comme poète, que précisément, je n'appartenais à rien du tout. Et je crois que c'est l'une des raisons, entre guillemets, pour lesquelles j'ai écrit de la poésie. C'est pour ne pas appartenir. C'est l'une des raisons. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. La tendance du grand chant, bien sûr, on pourrait me l'attribuer. et me définir ainsi, mais il me semble que dès le second recueil, L'ombre du prince, le chant lyrique chez moi est déjà taraudé par une dérision, et une dérision qui s'affirme sur le plan de l'écriture avec la barrière blanche de façon agressive, avec un visage fermé de façon moins agressive, mais aussi nette, une écriture, je dirais, très économique, dépouillée, avec tout en sous-entendu. Et puis quand je suis revenu au champ très vaste, avec la guerre sainte et avec Colonie de la mémoire, c'est tout en gardant l'autre dimension, celle de la dérision, du sous-entendu. Le chant chez moi est toujours coupé par un rire sarcastique, et cette dérision fait aussi partie du chant. Alors me placer, me situer dans une tendance, ça me paraît impossible, du moins en tant qu'auteur. Ça me paraît aussi, pour moi, inintéressant, parce que ce que j'ai écrit, c'est un tout. Il y a une chose qui est quand même importante à dire, c'est que, je le répète, je ne me suis jamais posé la question de savoir à quelle tendance je voulais appartenir, à quelle école je voulais appartenir. J'ai écrit de la poésie parce que j'avais le besoin d'en écrire, pour toute une série de raisons. Et puis voilà, j'ai fait ça. Jamais je n'ai essayé d'entrer dans un cadre, jamais je ne me suis dit « je vais continuer de grands prédécesseurs ». Jamais je ne me suis dit non plus « je vais tout casser et faire du neuf absolument ». Là n'était pas la question, puisque la question était de m'exprimer moi-même, tel que je suis, et tel que je suis un mélange d'anciens et de modernes, je suis un mélange d'hier, de demain et d'aujourd'hui. Et par conséquent, pourquoi aurais-je rejeté des choses? Au contraire, j'accueille de plus en plus, j'accueille le maximum. La poésie, pour moi, c'est une manière d'invasion. Je me vois très bien en potentat asiatique médiéval. Moi, c'est un empire qui m'intéresse en écrivant de la poésie. Alors, les rejets, non, ça ne m'intéresse pas. C'est plutôt les annexions qui m'intéressent.
Toutes ces résonances partout. Si tu regardes un peu, tu vois beaucoup. Si tu écoutes un peu, tu entends tout. Chaque fois que tu aimes, tu chavires. Tu regardes par la fenêtre et rien dans ta tête. Cet amoncellement partout, que tu émènes avec toi, où que tu ailles, et qui est là, où que tu sois.
Les textes de Madeleine Van Oudenhove explorent et interrogent la communication. Nous écoutons des extraits d'un inédit intitulé « Toutes ces résonances partout ». Plutôt que de délivrer l'un ou l'autre message, ces textes vérifient les zones de tension entre incommunicabilité et communication dans le code même. Ce sont des invocations dramatiques, des appels joyeux, des adresses anxieuses à l'autre, à soi. Son premier texte, La connaissance des jours, fut un poème scénique.
C'était un poème écrit pour un homme qui était atteint d'une surdité totale, à la suite d'un accident, mais alors totale. Et cet homme parlait, et lisait sur les lèvres. Et bon, là, il y avait quand même aussi un problème de silence. Aussi, ces choses inexplicables. Quelqu'un qui manque d'ouïe, c'est comme, bon, c'est quelqu'un qui est aveugle. Il y a un creux, il y a aussi un silence. Moi, j'appelle ça des silences, quoi. C'est pas... Et là, ça m'avait terriblement impressionnée parce qu'on se parlait beaucoup, justement. Et c'était très impressionnant parce que je vivais dans un silence. Et pourtant, on se parlait et pourtant, on était dans un silence. Puisque lui était dans le silence, moi, obligatoirement, j'étais dans son silence. Un silence qui était assez bruyant au niveau de tout ce que ça faisait surgir en moi et en lui. Et plus tard, dans l'être à sens unique, c'est plutôt l'espace à ce moment-là que j'appelle encore silence, mais c'est plutôt un espace qui fait que dans l'être à sens unique, ce qui m'a intéressée, c'est peut-être à peu près le même, disons, scénario, si je puis dire, c'est à peu près la même communication qui est dans une incommunication.
Quand les merles noirs, au bec jaune-orangé, rasent les touffes d'herbe épaisse et dense, j'ai peur du bon soudain, félin, qui peut en plaquer un au sol et le déplumer à une rapidité folle. Ces crocs acérés qui se plantent dans la chair savoureuse de l'oiseau, cassant les côtes de cristal, un merle de moins pour annoncer la pluie. Mais qu'est-ce que c'est ? Éveil, de plus en plus jour, au fond de moi, signe de vie. Oiseau, aile, crépitement. Parfois la douceur diminue et le souffle lourd. On a défait le tumulte des conversations, silence, vidé les cendriers, de plus en plus jour en dedans. Dehors, la nuit se prépare. Multitude d'étoiles ce soir, les dents pressant la lèvre inférieure, les gestes lents, souffrance, jouissance, couler. Plus d'échappatoire possible, plus de sortie de secours. Dire oui, le crier, remonter, nager, dernier baiser, abdication, dormir. J'ai envie de le dire, il faut que je le dise, alors je le dirai, partout, à n'importe qui. N'importe comment, n'importe quand. Sur la nappe du restaurant, en graffiti, je le redirai, c'est la répétition. Je ne veux pas que ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas, ce désir. Seconde, tous les sourires. Tu glisses, tu bondis, tu traverses, tu cours, tu restes immobile. Stop, tu respires. Et tu es las souvent. Attendre. Des indices partout, placés par toi, caresser les murs du regard itinéraire. Attendre, un peu, fermer les yeux, se blottir. Tourner à gauche, à droite, ici ou là, ailleurs pareil, portière ouverte, sortir, fermer la clé, marcher, l'air. C'est toujours toi que je vois. Parfois ne plus savoir si c'est la couleur ou si c'est l'angle qui change. Parfois, c'est parce que l'on regarde pour la première fois, sans bruit. Puis, l'oreille s'affine et tous les murmures respirent, là où l'œil se pose. Marcher à côté d'elle, ce n'est plus se diriger vers un endroit précis, entre un lieu et un autre. Dans les larges allées qui relient les sentiers, marcher à côté d'elle est un répit. En longeant une partie de la lys, avant qu'elle ne croise l'Escaut, on peut traverser Tougan les soirs d'été le long des quais, bordé de bacs à fleurs, le dragon illuminé au loin et tant d'oiseaux accumulés dans les branches, grappes de raisins, mal aux pieds et fins, allumés des bougies d'air entré, continuation d'une certaine teinte, mandarine claire, transparente, comme la petite lampe opaline du grand hôtel dans une séquence de mort à Venise. Je sors, rapide, chercher partout, éplucher les journaux sur la table de cuisine, tailler les conférences dans le jardin, trier les pages d'un livre comme les lentilles, tous les mots dans la main, les disques cycliques comme le temps, les résonances des mouvements qui se collent aux affiches, la foule que l'on défriche, quelque part un battement régulier. »